en deux parties. La première sera descriptive et catéchétique, tandis que la seconde sera sur les plus beaux textes qui ont été faits sur les anges par Monsieur Jacques Dossy aux éditions Landre.
La Nord. Oui, il y a eu une erreur quelque part.
Voilà. Et donc, ça permettra à ceux qui le souhaitent d'avoir des belles considérations sur les anges. Alors, ce qui fait que, dans un premier temps, je vais à l'enseignement de la foi. Dans cette première partie qui est un... Je fais une comparaison qui n'est pas forcément partagée par tout le monde, d'un point de vue théologique, d'un point de vue très strict, mais je pense que c'est une illustration assez forte et qui permet d'avoir des idées simples. Certains diront que c'est simpliste, mais je préfère prendre cette comparaison. En parlant des anges aujourd'hui, donc on va parler des êtres qui n'ont pas de matière. Il y a dans le vocabulaire des êtres humains des genres, des catégories générales qui, à l'intérieur même de ces catégories, ont des ramifications, ce qu'on appelle des espèces. Par exemple, une chaise, c'est un quatre pieds, un plan plat et un plan vertical pour le dos. C'est une chaise. Un tabouret n'a pas de dossier. Un fauteuil a des accoudoirs. Donc, vous avez fauteuil, chaise, tabouret. Mais parmi les chaises, vous avez les chaises en paille, les chaises en bois, les chaises recouvertes de tissu. Vous avez des fauteuils Louis XIII, vous avez des fauteuils Empire, vous avez une diversité. Eh bien, cette comparaison que certains théologiens n'aiment pas, je l'utilise, c'est dans le genre des esprits. Un esprit, c'est un être qui n'a pas de matière, qui n'a pas d'atome. Atome, c'est ce qui est tellement petit qu'on ne peut plus le diviser. Vous voyez ? En tout cas, à l'œil nu. Un atome, ce qui ne peut plus se couper. Et donc, les êtres qui sont purement immatériels, on les appelle des esprits. Dans le genre des esprits, il y en a un qui a toujours existé et qu'on appelle éternel. C'est Dieu. Il y a ceux qui ont commencé d'exister, qui ont été créés et qui sont immortels par nature parce qu'ils n'ont pas de matière. Ils n'ont pas de corps qui puisse mourir. Ce sont les anges. Et parmi les esprits, il y a, et je ne fais pas de distinction, l'esprit humain qu'on appelle âme lorsqu'il fait bouger le corps humain. Vous avez Dieu, qui est un pur esprit éternel. Vous avez les anges, qui sont des esprits créés et qui ne sont pas susceptibles de mourir parce qu'ils n'ont pas de séparation entre leur esprit et un corps. Et vous avez l'espèce humaine, qui, elle, a un esprit, mais qui est créé à l'occasion de la formation d'un corps. Et donc, les animaux, eux, n'ont pas d'esprit au sens propre. Comme j'ai l'habitude de le dire pour être précis, même si ça complique un peu les choses, les animaux, les insectes et les plantes ont un principe de mouvement autonome. Ce ne sont pas des choses inertes qu'on fait bouger. Ce livre est inerte, il n'est pas vivant. Les bactéries, les plantes, les insectes, les animaux bougent tout seuls. Ils sont vivants. Ils ont un principe de mouvement. Ce principe de mouvement, on l'appelle en philosophie une âme. Mais comme pour les enfants, c'est une véritable confusion de dire que les animaux ont une âme, alors que les hommes aussi ont une âme, on en parle peu ou pas. Mais l'être humain, lui, a une âme, mais qui est spirituelle. Et quelle est la qualité des esprits? C'est pas seulement de ne pas être composé de matière, c'est d'avoir l'intelligence et la volonté. Les animaux, les plantes, les insectes et les cellules, les bactéries n'ont pas l'intelligence et la volonté. Ce n'est pas le sujet de ce soir, donc je vais vite. Non, l'animal le plus fin a un instinct très fin que Dieu a mis en lui et qui le conduit, comme l'oiseau fait son nid et l'araignée sa toile. Le chat, lui, observe, a une mémoire prodigieuse, cherche l'affection, cherche les sensations agréables, comme le chien, et est particulièrement fixé dans l'attention de celui qui le nourrit et qui lui parle. Vous voyez ? Donc, chez nous, c'était très émouvant. Ce sont des animaux de compagnie que Dieu a voulu spécifiquement, c'est le cas de le dire. Ici, lorsque nous parlons des anges, nous parlons d'êtres qui sont invisibles, ils ne sont pas composés de matière. On peut remonter à l'existence de Dieu par ses œuvres, par ses créatures, par ce qu'il a fait, et l'intelligence et les lois intelligentes qu'il y a dans le créé. Tout être intelligent remonte à Dieu. Vous allez me dire, mais moi, je suis venu ici, je suis agnostique, c'est-à-dire que je me pose des questions sur l'existence de Dieu, je suis pas sûr qu'il n'existe pas. Là, vous me dites que je suis bête, en fait. Hein. Ou si je suis athée, il y en a parmi vous qui sont venus athées, vous allez me dire, ah, là, vous me dites que je suis idiot. Eh bien, en quelque sorte, si vous voulez, normalement, il n'y a pas d'effet sans cause. Vous voyez ? Il n'y a pas d'effet sans cause. C'est une vérité intangible. Et donc, tout ce qui est une œuvre d'intelligence constante, et non pas par hasard, est le fait d'une volonté et d'un but. Voyez ? Cette main, elle a été organisée avec ses os et ses tendons pour saisir. Ce n'est pas par hasard, ce n'est pas par milliards d'années que cette main saisit, ce n'est pas vrai. Il y a un être supérieur à moi qui a voulu que ma main soit un outil, que mon œil voit. Et dans les universités, on insiste très peu, voire on ne parle jamais, de la cause finale. On décrit l'œil, mais on ne dit pas que l'œil a été fait pour voir. C'est par hasard qu'il voit. Ben non. Heureusement qu'on n'a pas les yeux derrière les oreilles. Parce qu'on devrait faire ça en permanence, mais par sélection naturelle, ceux qui ont les yeux derrière les oreilles seraient morts sans doute, en se prenant des arbres, des trous et tout ça. Et c'est toujours les mêmes arguments que j'utilise, mais qui sont importants. Parce que les anges, eux, saint Thomas d'Aquin dit que leur existence n'est pas évidente. Il manquerait quelque chose dans la création, mais leur existence n'est pas en quelque sorte, il ose le dire, lui qui aimait beaucoup les anges, n'est pas nécessaire. Dieu est créateur et il met beaucoup d'art et d'amour et de fantaisie dans la création, dans toutes les couleurs, les oiseaux de différentes formes, les insectes de différentes formes, les bactéries qui provoquent la peste, le choléra, tout ça, c'est beaucoup de fantaisie. Hein. Pour nous, c'est une fantaisie qui est un peu dérangeante, hein. Beaucoup d'intelligence dans les tissus, de savoir comment il y a une gangrène, comment on a de l'eczéma et tout ça. Le bon Dieu, il sait tout ça, il l'a fait, voyez. Nous, on aimerait quand même connaître les lois de la nature pour essayer de compenser ces effets lourds. Nous aimerions maîtriser parfaitement la loi de la gravité. Pourquoi dans la jeunesse il y a tant de succès avec les super-héros? Parce que, si vous voulez, tout le monde a rêvé, ou beaucoup de personnes rêvent, de s'envoler. Mais ça ne marche pas. Et vous êtes là, dans tous les films Marvel, ils s'envolent, ils vont là, ils vont au lit. Mais tout ça, c'est faux. Ça n'existe pas. Hein, eh bien, si vous voulez, le créer nous fait remonter à une intelligence exigeante qui, lorsqu'il crée à son image et à sa ressemblance, c'est-à-dire esprit et dans l'amour et dans la grâce, eh bien, il met tout de suite à l'épreuve les êtres. Il ne les crée pas pour être heureux, tranquille et sans effort. Dieu est un être qui est vraiment, qui veut qu'on se dépasse, dans un sens moderne du terme, hein, qui veut qu'on porte du fruit. Il n'y a pas de paresse en Dieu. Et il n'y a pas de paresse pour l'être humain. Eh bien, il a créé des esprits avant d'avoir créé la matière. Et avant même d'avoir uni cette nature sans matière, immortel et spirituel à un corps animal, il a voulu un pur esprit sans corps. Est-ce que c'est nécessaire pour nous? Si dans votre vie vous n'avez eu aucune intervention angélique, vous pourriez très bien vivre votre prière vis-à-vis de Dieu sans chercher les purs esprits, sans chercher les anges, sans chercher les démons. Les êtres humains, à travers l'histoire humaine, ont eu des manifestations angéliques. Les anges se sont fait voir. Alors, comment ils se font voir? Ils font des corps d'emprunt. Comme nous, nous faisons des mannequins, comme nous, nous faisons des poupées, comme nous, nous faisons maintenant, dans l'art cinématographique, des visages en latex absolument impressionnants, eh bien, les anges peuvent faire des apparences encore plus fines qu'avec ce que nous pouvons faire dans le cinéma actuellement. Et donc, ils peuvent vous donner l'impression d'un véritable être humain qui est à côté de vous, qui respire, qui transpire. Je ne pense pas que les anges fassent les organes à l'intérieur. Donc ça doit être creux. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Et puis en plus, cette matière, elle est maintenue en cohérence pour faire une apparence visible, parce que nous avons besoin que les photons rebondissent sur de la vraie matière pour que nous puissions voir avec nos yeux, et ensuite ils dissolvent cette matière et ils disparaissent, ou alors ils concentrent des photons pour faire un hologramme, pour faire une apparence, mais ils n'ont pas de matière. Et dans la Sainte Écriture, nous dit saint Thomas d'Aquin, l'existence des anges nous est révélée d'une manière particulière. Leur action, leur volonté, c'est dans la volonté de Dieu. Alors attendez. Donc vous avez un des livres qui parle des anges d'une manière très très forte. C'est ce qu'on appelle le livre de Tobie. Le livre de Tobie, donc c'est Tobie, Senior, qui est un saint homme et qui, dans l'exil, il n'est pas en Terre Sainte, je crois qu'il est en exil de Babylone, est un juif pieux et qui s'occupe de ses co-religionnaires, se soucie d'eux, et à un moment donné, aussi, lorsqu'il y en a qui meurent, et que les païens méprisent ces juifs, il prend leur corps et il les enterre. Et un jour, il revient chez lui, sa femme, exaspérée par sa piété, comme la femme de Job, a fermé les portes de toute façon. Il est resté dehors, et le bon Dieu, avec son humour inénarrable, laisse un oiseau faire sa fiente sur ses yeux, ce qui le brûle. La fiente atteint ses yeux et ça, comment dire, avec la paupière qui s'ouvre un peu, tout ça, l'acidité détruit ses yeux, il devient aveugle. Alors, il perd un peu de moyens et il se souvient qu'il y a quelqu'un dans sa parenté qui a une dette vis-à-vis de lui. Alors, il envoie Toby Junior aller recevoir cette dette pour aider la famille. Et alors, il se demande comment ils vont aller. Je crois que c'est en Chaldée avec des origines, hébraïques, hein, d'Abraham, de Toby. Et voici qu'un jeune homme arrive et dit, ben justement, je vais là-bas. Si vous voulez, je peux vous guider et vous accompagner dans les dangers du chemin. Et donc, voilà que Raphaël Archange va accompagner Toby Junior pendant tout ce voyage. Et ce n'est pas l'objet de ce soir, donc je vais vite. À la fin, Toby Junior revient, il a trouvé une épouse. Il y a un poisson qui avait été pêché lors d'une halte et que Raphaël avait saisi et avec lequel on va soigner Toby Senior et qui va retrouver la vue. Et alors qu'ils sont tout heureux et qu'ils remercient ce jeune homme, tout d'un coup ce jeune homme commence à monter dans une grande lumière. Et il leur dit, je suis un des esprits qui sont en permanence devant Dieu, je suis Raphaël Archange, et je suis venu pour récompenser Toby de sa piété et vous apporter la paix. Et là, ils l'adorent, comme un être divin, et dit, surtout ne m'adorez pas, hein, je suis un serviteur de Dieu. Et je voulais vous dire que quand je mangeais au halt, je faisais semblant de manger. Alors, c'est très curieux, vous voyez, je ne vous développe pas tout le livre de Toby, mais je prends ce qui m'intéresse dans ce livre, parce que l'auteur sacré qui a raconté cette histoire, qui pour moi est vraie, eh bien, il a rajouté bien cela, que Raphaël l'ait vraiment prononcé, ou que lui ait voulu le mettre dans la bouche de Raphaël, à mon avis c'est Raphaël qui l'a vraiment prononcé, ils peuvent rentrer dans ces détails-là, il dit, quand je mangeais, je faisais semblant de manger. C'est-à-dire qu'il prenait la nourriture et il faisait partir la nourriture ailleurs. C'est simple, vous savez, pour un ange, ils ont maîtrise sur la matière. Nous avons un esprit comme les anges. Regardez ce que mon esprit fait avec mon corps. Je peux vous assurer que ce n'est pas mon cerveau qui à 100% fait ça. C'est impressionnant de voir le pouvoir qu'a mon esprit sur mon corps. Si pendant que je vous parle, vous avez un ange qui prend ce livre et qui le fait monter ici, qui le fait droit comme ça, comme ça, comme ça, qui le pose ici, on vous dit c'est Majax. Il y a un truc qui ne va pas. Quand c'est de la magie et qu'il y a un truc, en effet, c'est un moyen humain, ça a été préparé, il y a des miroirs, il y a tout ce que vous voulez. Mais quand vous êtes tout seul ou quand vous êtes en plein exorcisme et qu'un objet se déplace, ce sont les esprits qui font bouger l'objet. Et vous avez des anges qui président à la loi de la gravité. Donc des anges qui déplacent des planètes, rien que ça. Et donc, pour Raphaël Archange, donc il saisit la nourriture et il peut, si vous voulez, comme il peut faire un corps d'emprunt, il peut faire ce que de nos jours on essaye de faire. Ce sont des écrans qui reproduisent ce qu'il y a derrière pour nous rendre invisibles. Vous voyez, bon, ça marche plus ou moins bien en ce moment. C'est surtout sur des surfaces planes que ça pourra marcher. Et voyez-vous, un ange peut non pas faire disparaître quelque chose, mais pas le rendre invisible, mais faire en sorte qu'on ne le voit plus et le faire disparaître, le jeter ailleurs, le transporter ailleurs. Voyez. Parce que les anges n'ont pas pouvoir de création de matière, et ils n'ont pas non plus pouvoir d'annihiler la matière. Ils la déplacent. C'est déjà pas mal. Voyez. Et donc, ce soir, ce que nous voulons demander au bon Dieu, c'est pourquoi il a créé ces anges et quel est le rapport avec les êtres humains. Pourquoi il a créé ses anges? Eh bien, c'est pour une perfection de la création. Comme dit saint Thomas d'Aquin, s'il n'y avait pas les anges, il y aurait entre le pur esprit qui est Dieu et le monde animal et le monde créé un trou. C'est-à-dire des esprits créés, voilà, des esprits créés. Tandis que nous, nous sommes des esprits créés animant un corps. Donc il manquerait, si vous voulez, une espèce dans le genre esprit. Vous avez l'esprit incréé et éternel qui est Dieu. Vous avez les esprits créés et qui n'ont pas de contact avec la matière par nature, ce sont les anges, les purs esprits. Dieu est un pur esprit, les anges sont des purs esprits, mais ils sont créés. Et nous, nous avons un esprit créé à l'occasion de notre conception. Il n'y a pas un stock d'esprits qui est envoyé dans des corps à chaque conception. Dieu crée un ange, un pur esprit, une âme à chaque conception humaine. Alors, certains professeurs en médecine disent « Oui, mais justement, saint Thomas d'Aquin ou Aristote pouvaient penser que l'infiniment petit humain était d'abord un animalcule. Il avait un principe de mouvement, une âme animale, mais pas une âme immortelle. Ce n'était pas une personne humaine. Qu'il se développait, mais qu'il y a une succession d'âmes. D'abord, une âme d'amas de cellules, et puis une âme humaine. Pour notre Seigneur Jésus-Christ, saint Thomas dit, il a eu une âme humaine dès le premier instant de sa conception. Mais saint Thomas d'Aquin se disait, peut-être que pour les hommes, c'est 40 jours, et pour les femmes, c'est 80 jours. Et pourquoi ? Les hommes sont présentés au temple au bout du 40e jour, dans l'Ancien Testament, et les femmes au bout de 80 jours. Grosso modo. Donc voilà, bon, franchement, c'est pas très scientifique. À la limite, c'est pas très philosophique. Et de toute façon, l'Église, actuellement, elle vous dit, non, on ne peut pas faire de distinction pareille. L'âme est créée au moment de la conception. Ce qui fait que tous les embryons surnuméraires sont tués, et tous les embryons congelés, 20% meurent. Il y a 80% qui arrêtent leur développement et qui sont figés. Et quand ils sont réchauffés, le développement revient. Et l'âme est là sur un corps figé. Mais le corps n'est pas mort. Mais 20% meurent. Et tout ça, ce sont des êtres humains, des personnes humaines. Mais non, comment vous pouvez dire que c'est une personne humaine alors qu'il y a 4 cellules, 8 cellules, 16 cellules? Voilà. Mais ça vous fait réfléchir sur ce que c'est qu'un esprit. Et ceux qui disent, mais les anges n'existent pas. Alors à ce moment-là, il faut qu'ils fassent très attention. Parce qu'eux-mêmes n'ont pas une âme comme les animaux, comme les plantes, comme les insectes, comme les bactéries. Ils ont un esprit immortel. Et quand notre corps meurt par maladie ou par accident, notre âme survit à la désorganisation de notre matière qui ne permet plus à l'âme d'user de cet instrument extraordinaire qu'est le cerveau. Mais seulement, voyez-vous, vous avez des animaux qui ont des cerveaux assez développés, mais qui n'auront pas l'abstraction et l'intelligence. Voyez. Même les bonobos ne parviennent pas à concevoir véritablement le vêtement. L'écharpe, les chaussures, choses qui nécessitent l'abstraction. Je crée une forme pour un autre but. Alors bien sûr, il y en a qui mettent des tiges, des brindilles dans des fourmilières. Ça, c'est l'outil ultime. À côté, la bombe nucléaire, c'est du mécano, c'est monsieur bricolage. Vous voyez ? Non, c'est plutôt simple hein, comme outil. Vous voyez ? C'est de la pure observation comme un chien qui vous ouvre une porte. Parce qu'il saute sur la... Ou le chat qui met sa patte sous la porte pour la faire tourner sur ses gonds. Enfin, on ne peut pas quand même parler d'un ingénieur. Alors, les anges... Dieu, donc, les a créés et les a mis à l'épreuve. Dans un premier temps, je vais vous parler des hiérarchies des neuf cœurs des anges et ensuite de l'épreuve des anges, de leur chute, et on arrêtera là, et ensuite je vous donnerai la parole sur les textes sur les anges.